Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the Internet at CIUT.FM or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Jeudi midi, dernier jour du mois d'août, mon nom est André Arthur, bienvenue à Boulevard. Donc, on apprend que la voiture du président, je pense, du Centre islamique de Québec a été incendiée devant sa résidence il y a plus de 3 semaines. Et c'est pas compliqué, tout le monde est arrivé à sa conclusion avant même que l'enquête ait commencé, ou à peu près. Même les policiers de Québec ont démontré une forme d'imprudence qui me chicote un peu. Comment peuvent-ils affirmer que c'est un acte criminel avant même d'avoir les résultats de l'examen technique du véhicule? Des autos qui prennent en feu dans les entrées, c'est quelque chose de fréquent. Demandez aux pompiers, surtout avec les voitures hybrides, surtout avec les voitures qui ont des ordinateurs à n'en plus finir, surtout avec les modèles relativement récents. Et en plus, on sait que certains véhicules ont pris en feu, même s'ils n'étaient pas neufs, flambant neufs, à cause des écureuils dans l'ouest de la région de Québec et en plusieurs secteurs qui mangent les fils, ça sac le feu, des fois ça grille l'écureuil. Bon, OK, on a...
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions à vous demander et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show. Toute la diversité du monde sur votre fréquence. Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Eh oui, mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent partout à travers la planète. Vous étiez plus de 564 personnes à réagir sur notre page Facebook la semaine dernière. Je dis bonjour aux gens de Montréal, du Sénégal, de l'île Maurice, d'Haïti, de Sudbury, Washington, Miami, République très démocratique du Congo. Vous êtes bien à Toronto avec votre magazine hebdomadaire de la francophonie, Studio Hot House, Université de Toronto, Canada. Un popourri show bien spécial aujourd'hui, en ce dimanche 25 février, notre histoire s'écrit chaque jour. Nous allons clôturer à notre façon le mois de l'histoire des Noirs. Montage, mixage, réalisation, DJ Devera, merci d'être là, l'assistant à la production, Sloane Ballant, où est-il ? Stagiaire au Collège Glendon, sera des nôtres dans un instant. Et cette émission est une idée et conception originale et animation de votre serviteur Eric Adair. Nous remercions chaleureusement nos collaborateurs partenaires, l'Express de Toronto, Abilo Media de la région d'Ottawa, la capitale fédérale, Radio France Internationale, France 24, Radio France, Civil Communication, édition Prise de Parole, l'Association des journalistes LGBT France. Merci, merci du fond du cœur à tout ce monde. « Et oui, le mois de l'histoire des Noirs pousse non seulement à la réflexion quant à des sujets sérieux et actuels, mais éduque également sur le racisme, la tolérance et l'histoire. Et pour conclure ce mois de l'histoire des Noirs, notre émission vous dévoilera une liste de médias qui prônent le racisme, le sexisme et l'homophobie dans le monde de la francophonie, particulièrement au Québec et en France. Vous êtes nombreux à avoir répondu à nos émissions, plus de 564 personnes à ce jour, selon notre dernier décompte de notre page Facebook. Au programme aujourd'hui, sexisme, racisme, homophobie dans les médias. Les journalistes ont-ils un impact sur l'imaginaire collectif? Voilà les questions qu'on va poser à nos invités. Les émissions de télé problématiques en France, toute une liste, hein, les talk-shows français qui sont épinglés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour des dérives racistes, sexistes, homophobes, une collaboration de l'Association des journalistes LGBT Europe, minorités visibles et médias du Québec, où sont-elles 40 ans plus tard, madame, monsieur? Où sont les minorités visibles dans nos médias francophones 40 ans plus tard? Dévoilement des top 10 de la radio poubelle. Coalition Sortons les radios poubelles du Québec dénonce le danger que représente la radio poubelle pour la salubrité de l'espace public. Un montage des pires radios poubelles au Québec à ne pas rater lors de cette émission. Et pourquoi ce Malien Cheikh Modibo Diarra, scientifique à la NASA aux États-Unis, évoque la francophonie comme une famille au potentiel énorme, mais inexploité. Selon lui, en tant que noir, il n'avait pas sa place en France. Le créateur et animateur d'Apostrophe, l'émission littéraire qui a marqué des générations de lecteurs, Bernard Pivot, nous livre un témoignage choc de Cheikh Modibo Diarra à ne pas rater vers la fin de l'émission. Parmi nos invités aujourd'hui, professeur Aurélie Lacassagne, bonjour. Professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Laurentienne dans le nord de la province de l'Ontario, Sudbury. Elle est docteur en sciences politiques à Bordeaux, auteur d'un essai sur les perspectives créoles, sur la culture et l'identité franco-ontarienne, qui est sorti au mois de septembre 2017. Édition prise de parole, d'ailleurs, a été à l'émission au mois de novembre. Peggy Civil, une nouvelle à l'émission, conférencière, animatrice et chroniqueuse de radio, télé, consultante, troubadour, voyageuse. Elle est consultante en communication, elle nous écoute peut-être, elle est dans la région de Ottawa-Gatineau. Et oui, partenaire de la programmation du mois de l'histoire des Noirs 2018 de la ville de Gatineau et le conseil de la communauté noire de Gatineau. Merci d'être là aujourd'hui, Peggy Civil. Et nous allons aussi utiliser les textes qui alimenteront cette émission de Agnès Chauveau. Elle est spécialiste des médias, productrice à Radio France, maître de conférences des universités et du journaliste Julien Salingue. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université de Paris 8, ancien enseignant à l'Université d'Auvergne et à Paris 8, spécialiste de la Palestine. Et je vous rappelle rapidement, prévision du mois de la francophonie à ne pas rater. Cette année, nous allons entrer en lien avec le thème que nous propose la France, mon idée pour le français. Nous vous invitons à nous transmettre votre avis par courriel, pot.popourri@cut.fm. Voilà, c'est le nouveau. Et oui, à l'occasion du mois de la francophonie 2018, CUTFM s'associe à de nombreux partenaires afin de mettre de l'avant la richesse et le dynamisme de la francophonie des cinq continents. Plusieurs partenaires, jeunes artistes, y compris Zachary Richard, administrateur du centre et auteur, compositeur, interprète louisianais, seront parmi nos invités. Nous vous invitons à être des nôtres dès dimanche prochain pour le lancement du mois de la francophonie, le 4 mars, avec notre ami, partenaire, professeur Alexis Chouap, directeur du département de français à l'Université de Toronto. Et enfin, nous tenons à exprimer notre gratitude et nos remerciements à tous nos amis, partenaires, bénévoles et auditeurs, auditrices qui contribuent au succès de nos projets, de nos émissions. Nous allons aussi étaler le nom, la liste de tous ceux et celles qui ont participé à notre émission durant ce mois de l'histoire des Noirs. Et oui, vous pouvez aussi télécharger notre émission quand vous le voulez où que vous soyez, à www.popourishow.com. Popourishow, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que comme il y a dans certains quartiers une majorité de gens qui viennent de l'immigration arabo-africaine, et c'est tout à fait normal aussi, ils vivent à leur manière. Et donc les gens minoritaires, les Français autochtones minoritaires, dès qu'ils peuvent, quand ils ont les moyens, s'en vont. Quand ils ont les moyens. Parce que pour les petits vieux qui n'ont pas les moyens, ils restent là et ils sont obligés de faire des kilomètres pour trouver une boucherie qui ne soit pas halal. Justement, c'est ça toute l'histoire. Et donc, dès qu'ils peuvent, ils quittent ces coins-là. Et c'est pour ça que les gens se séparent. Et c'est pour ça qu'après, on parle de ghetto et de ségrégation. C'est parce que aussi... il y a des trafics dans ces quartiers. Je ne mélange pas tout du tout.
Ils ont des coutumes obscures, ils pratiquent la polygamie, l'exclusion.
Il y a de la polygamie aussi.
Et
il y a beaucoup de délinquance, pas du tout.
La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Vous connaissez nos politiques. On a quand même un maire de Levallois qui est quand même un délinquant de notoire, qui n'est pas issu des quartiers populaires. La délinquance accourt dans les milieux que vous fréquentez également.
Entre le trafic de drogue... Et la délinquance en col blanc, il y a une petite différence.
Eric, tu prends l'histoire à un moment donné, comme s'il n'y avait pas une séquence avant. Alors tu dis, les gens, à un moment donné, veulent vivre comme ça. Non, oui. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait...
Pourquoi on est contrôlé 17 fois?
Attends, mais laisse-moi finir.
Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait.
Attends. Pas forcément...
Mais si.
Pas forcément... Non, pas forcément.
Bah si. Ah bon, c'est pas pour ça.
Eric. Et oui, c'est l'animateur Éric Zemmour qui dérape à propos de l'immigration dans l'émission chez Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Je vous rappelle qu'il est chroniqueur dans des émissions de télévision en France. Éric Zemmour, journaliste au service politique du Figaro jusqu'en 2009. Il tient depuis 2010 une chronique au Figaro Magazine ainsi qu'une autre chronique sur RTL. À partir de 2011, Éric Zemmour anime en duo avec Éric Nolot un débat télévisé hebdomadaire sur Paris Première. En France, sa présence est souvent synonyme de record d'audience pour les émissions qu'il invite. Et oui, il est l'auteur notamment du livre « Le suicide français » paru en 2014, un important succès de librairie. Des accusations de racisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination lui ont valu d'être condamné à deux reprises par la justice française. Entre 2011 et 2017, il a été relaxé dans une troisième affaire en 2016. Notre histoire s'écrit chaque jour. Les médias sont-ils racistes? Le mois de l'histoire des Noirs pousse non seulement à la réflexion quant à des sujets sérieux et actuels, mais éduque également sur le racisme, la tolérance et l'histoire. La question du racisme a largement inondé l'actualité ces derniers temps. Et les polémiques récentes sur l'affaire du roi de la radio au Québec, André Arthur, ne font qu'alimenter les débats. En France, la situation est très préoccupante et beaucoup de journaux, de personnalités, se sont posés la même question. La France est-elle raciste? L'inflation des discours médiatiques sur l'intégration et sur les discriminations ont placé aujourd'hui l'immigration au cœur des controverses politiques. Les Noirs sont attaqués, maltraités, tués, surtout en Europe. Pas plus tard que samedi, des milliers de manifestants ont défilé à Rome contre le fascisme à l'appel de la gauche, tandis que Matteo Salvini, principal candidat d'extrême droite pour les législatives du 4 mars prochain, réunissait plus de 15 000 personnes à Milan. 2018, ça se passe encore chez nous, sur notre planète. Quel est le rôle des médias? Les préjugés racistes dans les médias sont-ils plus nombreux qu'auparavant? Comment traiter l'affaire d'André Arthur ou Jeff Fillion, de ces radios poubelles telles que Choix FM ou Sylvain Bouchard sur les ondes de FM 93 qui pollue le paysage audiovisuel au Québec. Nous ne voulons pas porter plainte ou encore porter préjudice ou porter au pied du mur les médias francophones, mais ce sont des constats, madame, monsieur, et nous devons les rapporter. D'ailleurs, après la tuerie des musulmans dans une mosquée du Québec en 2017, plusieurs voix se sont montées au créneau et ont pointé du doigt les stations de radio privées qui font leur beurre du débat identitaire. Incroyable. Ont-elles contribué à nourrir, à faire germer ce sinistre projet dans l'esprit vulnérable du jeune suspect Alexandre Bissonnette? Mais au lendemain de l'attentat, le bouchon a sauté. Eh oui, quand un expert, fréquemment invité par RDI, de Radio-Canada, Michel Junot-Katsia, a soutenu que certains animateurs de la radio de Québec avaient du sang sur les mains. Il dit, je cite, « Je n'ai pas dit qu'un commentateur a commandé cette tuerie, mais quelque part, on a la responsabilité commune de faire attention à nos critiques », a expliqué l'ex-agent du service canadien du renseignement de sécurité sur les ondes de Choix Radio X à Montréal. La radio nourrit-elle le radicalisme? Un des leaders de la communauté musulmane, Mohamed Ali Saïdan, au Québec, depuis 30 ans, déclarait sans détour, « Chaque fois que je monte dans l'autobus, le chauffeur écoute ses radios poubelles. J'entends des propos méprisant ma communauté. Une femme voilée qui se fait cracher dessus dans un lieu public. Une tête de porc dans un paquet cadeau à la porte de la mosquée. Une bannière hostile aux immigrants. Il y a une atmosphère sournoise à Québec », a soutenu M. Saïdan. En France, selon une étude, et après enquête, 17 émissions, madame, monsieur, et plusieurs animateurs sont épinglés. Pourquoi les animateurs français tels que Éric Zemmour, Cyril Hanouna de l'émission « Ne touche pas à mon poste » en France continuent à garder l'antenne malgré des plaintes, plainte après plainte auprès de la Commission supérieure de l'audiovisuel? Ces gens sont toujours présents à l'antenne. Pourquoi? Toujours en France, on s'en souvient de cette affaire qui avait fait grand bruit. Les propos de la candidate du FN, Front National, Anne-Sophie Leclerc, qui avait associé sur sa page Facebook l'image de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, à un singe. Il écrivait « Me voilà ramené à la condition de nègre, me voilà attablé avec d'autres noirs parce qu'ils sont noirs, et me voilà en train de m'offusquer d'une idiotie qui ne m'atteignait guère le racisme. » Il est toujours difficile d'évaluer la responsabilité collective des médias qui plus est face à un phénomène aussi complexe, cette libération de la parole raciste dont il faut évidemment s'indigner. Mais il est trop tôt pour dire s'il s'agit d'un mouvement de fond, car seuls les sociologues, les historiens peuvent analyser les flux et les reflux du racisme. Alors faut-il laisser toutes les opinions s'exprimer dans l'espace public? En France, la loi a tranché. Mais demeurent néanmoins beaucoup de questions à l'intérieur de ce qui est permis. Peut-on dialoguer avec tout le monde, comme le fait Éric Nolo avec Alain Soral, marginal d'une extrême droite ouvertement antisémite, dans ses dialogues désaccordés? Éric Nolo, que l'on voit partout chez Ardisson, au Grand Journal, chroniqueur hier aux côtés de Laurent Ruquier, sur France 2, aujourd'hui sur Paris Première ou RTL. Et oui, suite à de nombreuses réactions des auditeurs sur nos émissions spéciales de ce mois, il est clair que les membres de la communauté noire, surtout francophones, n'ont pas le cœur à la fête. Pour beaucoup de personnes, des diasporas noires, francophones, leur rêve de réussir au Canada n'est qu'un cauchemar. un cauchemar au quotidien, me raconte un auditeur. Il y a aussi le témoignage de cette mère de famille qui m'a dit « Mon fils vit un vrai calvaire dans son école. » Et je cite « Mon fils est constamment harcelé dans la cour d'école et on lui traite de tous les noms. Il manque de repères, de personnes qui lui ressemblent, des personnes noires qui ont réussi leur vie. Et je blâme un peu les médias et les réseaux sociaux. » Il est temps que nos médias, peut-être, y compris francophones, de l'Ontario, du Canada, du Québec, fassent un peu leur examen de conscience, n'est-ce pas? Regardons autour de nous, dans nos salles de presse. Est-ce que les Noirs sont présents? Il ne suffit pas de parler d'eux. Nous espérons, madame, messieurs, par la présente émission, vous proposez quelques repères, quelques critères pour évaluer ces relations entre médias et mémoire collective, notamment tangibles à travers les critiques plus ou moins explicites adressées aux médias dans les textes rassemblés grâce à nos médias partenaires, des experts et nos invités du dimanche.
To do than can ever be done. There's far too much to take in here, or to find than can ever be found. But the sun rolling high in the sapphire sky, each great and small on the endless round. It's the sun.
Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
CIUT 89.5, Toronto.
Le
blog du Zouk, YourZouk TV, présente la nouvelle compilation Zouk Session 2017. Les 40 meilleurs tubes Zouk du moment avec Marvin, Johan, Priscilla, Kim, Stony, Tyrek, Naël, Mani, Karine. Et toujours inclus en bonus, un mix exclusif de DJ Smile. Succession 2017. Disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Plus d'infos sur leblogduzouk.fr.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France,
France Inter.
Con Alexandre Hero.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Cette semaine, dans Francophonie, Marion Urban.
Le français est une langue à laquelle il est ridicule de s'attacher. C'est une déclaration du gouverneur de Tokyo qui a fait mal aux oreilles des francophones et des francophiles du Japon. Estelle Cerny, notre reporter, nous en parle.
Francophonie, le magazine de l'espace francophone, présenté par Marion Urban.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Monsieur le Président, il y a 23 ans, la Chambre des communes a reconnu février, mois de l'histoire des Noirs. Célébrons nos différences qui font du Canada un pays fort, diversifié, inclusif et fier. Le thème de 2018 est Femmes canadiennes noires, des histoires de force, de courage et de vision. Aujourd'hui, j'ai le privilège de rendre hommage à une de ces femmes. Son nom n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Veuve à 40 ans, elle a la responsabilité d'élever ses huit enfants. Elle a fait d'énormes sacrifices pour leur éducation. Elle a abandonné ses études pour s'adonner à la couture afin de mettre du pain sur la table. Elle est morte à Montréal en 2003 et enterrée à Saint-Marc. Elle a fait preuve de force, de courage, de vision et de beaucoup d'amour. Merci à Mme Elvire Adé Dubourg, ma tendre mère.
Par le gouvernement du Québec, parce que notre premier ministre était un rongeux de baliste.
Les cibles préférées sont les politiciens, les personnalités artistiques et les vedettes de la télévision.
Tu sais, petite fille de riche, petite fille qui a pas de misère, qui est rendue à 23-24 ans, qui fait des shows, qui lui donne 250 000 pour 6 mois, qui nous fait chier que le fait qu'elle est pleine. C'est-tu que ça m'énerve?
Si cette radio-là marche, c'est parce qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette façon d'aborder les choses. C'est-à-dire une espèce de désir toujours d'exprimer une colère, puis on veut se venger, en fait, du pouvoir. Ça fait partie de la culture de Québec. On haït les élites, on en veut beaucoup à Montréal. Donc, il y a toujours une logique de ressentiment que ces animateurs-là réussissent à véhiculer.
Jeff Fillion, malgré son langage très cru, est loin d'être le pionnier de la radio poubelle à Québec. Ce titre peu enviable revient à l'animateur André Arthur, surnommé le roi Arthur, le champion incontesté des codes d'écoute dans les années 80 et 90.
Ça nous change des filles à moustache de Radio-Canada,
oui.
Céline Galipo, puis des Anne-Marie Dussault, c'est des affaires avec un gros cul et une petite tête.
Il était le seul à faire ce type de radio-là. Radio de provocation, radio qui dénonce, radio qui est quand même accrochée sur l'actualité, mais une radio qui parle fort. comme lui, comme sa voix, comme sa personnalité.
Or, dans une grande société sûre d'elle-même, un trou de cul, c'est un trou de cul. Un trou de cul, c'est un trou de cul. Oui.
Babuche, t'es née de la bonne femme Dion, là.
Mais vers la fin des années 90, Jeffy Lyon commence à s'imposer avec un style de radio encore plus décapant. Il anime alors l'émission Le Monde Parallèle sur les ondes de la station Choix FM. Je crois
que ce qu'on a connu de Choix, 90 Radio X.
Véro n'a pas de talent. Elle n'a pas de talent. Mais ça a marché au Québec, ce petit monde fermé. Permet à ces imbéciles d'avoir des carrières extraordinaires, puis tant mieux.
Le coup de génie de Fillion, c'est qu'il a baissé les critères d'admission. Il a baissé la barre à l'entrée.
Mais t'es prête à s'ouvrir les cuisses, là, garde, et à dire à notre ami David, garde, tu fais ce que tu veux.
C'est pas un hasard, c'est voulu. C'est la radio, c'est du spectacle, c'est une mise en scène, c'est comme un film.
C'est le style de la radio qu'il a lancé. Une radio entre chums, dans un salon. On prend une bière, on rote, on pète, on fait ce qu'on veut, on est chez nous.
On fiffe à Musique Plus. Okay. Lui, là, il a le trou de cul tellement défoncé que ça ressemble à une vulve.
C'est une image, là.
Ça fait même plus ça, là.
Ah non?
C'est bon.
La coalition Sortons les radios poubelles de Québec dénonce le danger que représente la radio poubelle pour la salubrité de l'espace public. Le top 10 de la radio poubelle au Québec. Numéro 10, Denis Gravel, Choix 98,1. Radio X Québec, des propos haineux à propos de la grève de la faim d'une chef autochtone. Numéro 9, homophobe primaire, Jeff Fillion. De Radio Pirate. Au numéro 8, on n'est pas allé chercher la bonne immigration. Ça prend plus d'Asiatiques et moins d'Arabes. Claude Roy. Radio Rouge 93,3. Numéro 7, racisme décomplexé. Emma Québec, vont-ils identifier le sang qui provient d'un musulman? Parce que moi, je ne suis pas intéressé à recevoir leur sang. De la radio 93.3. Numéro 6. Masculinisme rampant. À 360 km/h, vous me ferez jamais à croire que la femme est l'égale de l'homme. L'animateur Bouchard sur 93.3. Numéro 5. Honk et cycliste. Quand vous voyez un cycliste, juste le saluer en lui envoyant un bon klaxon viril, genre Dodge Ram. L'animateur Dominique Moret, de Choix. Numéro 4, le cas Gabriel Nadeau-Dubois, qu'on nomme Ticu Dubois. Régent Breton, animateur sur Choix. Numéro 3, la liberté à deux vitesses. Déroulons les barbelés, préparons le Ziglon B. Ça fait référence au camp de concentration nazi. Landry et Gravel sur Choix. En entrevue avec le groupe d'extrême droite Légitime Violence. Numéro 2. Banalisation de l'extrême droite, l'animateur Bouchard sur 93.3. Et enfin, numéro 1, les pauvres, pourquoi les assistés sociaux ont le droit de vote? C'est l'animateur Bouchard qui avait dit ça sur 93.3. Et oui, ralliez-vous à la page Facebook de Radio Poubelle, la coalition Radio Poubelle. Soyez attentifs au blog. Contactez cette coalition via sortonslespoubelles@gmail.com. Et nous avons le plaisir d'accueillir Peggy Civil, conférencière, animatrice et chroniqueuse de télé, de radio, consultante en communication, partenaire de la programmation du mois de l'histoire des Noirs 2018 de la ville de Gatineau et le conseil de la communauté noire de Gatineau. Nous sommes très contents, très heureux, très fiers de vous recevoir. Bonjour Peggy.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben ça va. Vous voyez, vous entrez dans le feu de l'action aujourd'hui. Nous terminons l'émission en beauté, comme on dit.
Super. Donc, je vais prendre le temps de vous remercier, mais remercier aussi tous les auditeurs qui nous écoutent du côté de Toronto et maintenant d'Ottawa. Les gens sont branchés du côté de Montréal aussi.
Oui. Alors, comment s'est passé votre mois de l'histoire des Noirs? Je vois que dans la région d'Ottawa, de Gatineau surtout, il s'est passé pas mal d'événements, hein?
Pas mal d'événements. Je pense que c'est un mois... bon, il faudrait le célébrer toute l'année, mais ce mois bien précis fait des liens avec une ouverture de ce qui est notre communauté, la communauté noire. Qu'est-ce qu'on amène? De tisser des liens avec d'autres communautés. Donc, au niveau de ce mois, du côté de Ottawa, il y a eu une panoplie d'activités. Entre autres, on a passé dans les conférences, on a fait, il y a eu des films qui ont été présentés d'artistes noirs qui ont pris part. Il y a eu des panels de discussion sur plusieurs sujets. Il y a eu aussi des spectacles où est-ce qu'on a invité la grande population à venir s'imprégner de la culture noire directement du côté de Ottawa et de Gatineau. Et il y a un bon engouement, je pourrais dire, à continuer. Hein. Souvent, on va se limiter au mois de février pour célébrer les Noirs, mais je vois qu'il y a d'autres activités, d'autres annonces, d'autres implications d'associations qui veulent continuer ce cheminement de tisser les liens avec non seulement la communauté noire et la communauté d'accueil.
Oui. Et je pense qu'il y a de plus en plus beaucoup de francophones qui se concentrent dans la région d'Ottawa, de Gatineau. Et pourquoi ces gens préfèrent aller à Gatineau, Ottawa, au lieu que de rester? On sait qu'il y a l'exode de Montréal, il y a plusieurs études et articles de presse qui nous démontrent que beaucoup d'immigrants francophones, des Maghrébins, des Africains, des Haïtiens, descendent vers Toronto maintenant et peut-être ils s'arrêtent en cours de route à Ottawa, à Gatineau, pour saluer les gens, la famille, les amis, et peut-être des fois ils dénichent des choses plus intéressantes qu'à Montréal. Comment expliquer ce phénomène?
Bon, ça tombe bien parce que je suis originaire de Montréal. Et puis, moi, j'ai quitté Montréal pour poursuivre mes études. Il y a une image donnée de Toronto et de Ottawa, de Gatineau, au niveau de l'ouverture non seulement professionnelle, mais ouverture aussi au niveau de la culture. Montréal, comme que vous avez dit, on retrouve plusieurs communautés. Dans mon esprit, dans la façon de faire les choses, il y a un certain gouffre à Montréal. Donc, plusieurs personnes cherchent de l'emploi dans plusieurs domaines. Il est un peu saturé. Donc, moi, j'ai décidé d'aller ailleurs pour voir qu'est-ce que ailleurs pouvait m'apporter au niveau de ma carrière, au niveau de mon cheminement en tant que professionnel. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'aller à Ottawa. Et bientôt, je regarde la fenêtre de Toronto. Pourquoi qu'elle m'attire? Parce qu'il y a une diversité culturelle, mais pas juste une diversité culturelle. C'est une diversité qui arrive d'après l'image qu'on envoie, et vous allez pouvoir me dire si je suis dans le bon cheminement ou pas, à des postes de direction, à des vraies voix où est-ce qu'on peut prendre la parole et changer les choses. Est-ce que je me trompe?
Ou non, je pense que vous avez parfaitement raison. Nous, on est chanceux, on a cette chance d'être à l'Université de Toronto. C'est un laboratoire d'idées, comme j'aime à dire. On a cette liberté d'expression pour faire avancer les politiques. On sait qu'il y a des professeurs qui nous ont poussé un peu dans le dos pour avoir cette émission il y a 30 ans de cela. Et ces professeurs étaient très, très engagés à l'époque, dans les années 80, dans l'équité en matière d'emploi, qui combattaient le racisme systémique, qui faisait tout à travers leurs études, à travers des cours d'histoire, à travers aussi des nouveaux cursus qu'ils ont mis en place pour démontrer la richesse des littératures francophones, africaines, antillaises, parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Et donc, pour avoir cette liberté aujourd'hui d'avoir deux Noirs, deux Africains qui sont à la tête du département de français au campus de Centreville et le campus de l'Université de Toronto de Mississauga, c'est un atout, un gain, mais c'est sûr qu'il y a eu des luttes, c'est sûr qu'on continue toujours l'équité en matière d'emploi, avoir un monde équitable, hommes, femmes et puis gens de toute race, c'est pas gagné, c'est pas donné partout. Il faut vraiment du travail de fond, mais aussi il faut, je pense, avoir des politiques. Et je pense qu'au gouvernement de l'Ontario, ils ont compris que ça prenait des politiques et des lois pour faire avancer les choses, parce que aussi c'est un électorat très important et tout le monde veut gagner aux élections, n'est-ce pas?
Alors... Oui, absolument. Et lorsqu'on parle d'électorat, j'étais à Montréal et j'avais l'opportunité de pouvoir animer un cocktail conférence avec Madame Dominique Anglade, qui est vice-première ministre du Québec. Et puis, elle a abordé, dans quelque sens, cette problématique d'avoir des règles, d'avoir des lois qui sont mises en place. Mais elle se posait elle a fait la réflexion à haute voix. Elle s'est demandé, on a déjà ces politiques. Ils existent sur papier, mais comment maintenant on fait concrètement, hein, concrètement dans le système que nous avons, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des communications, que ce soit au niveau média, de pouvoir rendre la chose tangible. Parce qu'on connaît, tout l'histoire derrière, il y a beaucoup de politiques sont aussi déjà établis. Mais lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on regarde la couleur, la diversité des gens qui accèdent à ces milieux, ça ne répond pas à toutes les lois qui a été écrite pour avantager cette diversité culturelle-là, à être présent dans ces milieux.
Je vais vous lire rapidement un article et puis on va passer aussi de votre expérience que je trouve très intéressante au niveau des médias communautaires dans la région de Gatineau et d'Ottawa. Il y a un article de Martine Langteau, elle est ancienne journaliste rédactrice en chef en information à Radio-Canada et qui s'intitule « Minorité visible ». Où sont-elles 40 ans plus tard? Et elle dit, en 2000, la plus grande enquête au pays concluait que 97,7% des journalistes étaient blancs. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Les données sont rares, mais la situation dans les médias francophones ne semble pas avoir évolué, ou si peu. On ne comptabilise pas les minorités, non, on n'a pas. Pas de politique sur les minorités, reconnaît d'emblée Éric Trottier, vice-président à l'information et éditeur adjoint à la presse. Le manque de diversité dans son journal est flagrant et il le déplore. Donc on voit qu'il y a une reconnaissance de la part de plusieurs têtes d'affiche dans nos médias qui reconnaît qu'ils n'ont pas fait assez d'efforts, n'est-ce pas? On a une salle non seulement blanche, francophone, catholique, mais je dirais même très plateau Mont-Royal. C'est un constat qu'on fait depuis des années et on se dit toujours il faut faire bouger les choses, il faut que ça change, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce que vous êtes d'accord?
J'irais dans la lignée que, premièrement, vous avez posé une question. Où sommes-nous? Nous sommes présents. Est-ce qu'on est présent assez dans les gros médias officiels? On peut le constater lorsqu'on ouvre la télé, lorsqu'on est sur les médias sociaux, tels que Facebook, Instagram, etc., Twitter. Est-ce qu'on a cette visibilité? Est-ce qu'on est présent en nombre? Non. Je dirais que non, et puis tout le monde peut le constater. Mais est-ce qu'il y a une communauté dans la communication qui veut pousser, qui est présent, qui va chercher d'autres médiums hein, pour aller s'exprimer? Je pense qu'on est là. On est là fermement. On ne lâche pas. C'est un travail de groupe. Donc, lorsque j'ai été à Montréal, j'ai rencontré des collègues de travail qui sont non seulement journalistes, qui sont animatrices, qui ont des blogs. Et ils sont présents. Ils utilisent qu'on a présentement, lorsqu'on parle de Facebook Live, lorsqu'on parle de caméra, on utilise tout ce qu'on a pour être présent, pour représenter cette communauté de communication. Voilà.
Oui, mais vous, votre expérience dans la région de... Je vois, il se passe tellement de choses, vous faites Moi, j'ai dit aux gens ici, dans mon entourage, j'ai découvert vraiment une perle à Gatineau. Merci. Parce que vous êtes mentor auprès des jeunes entrepreneurs. Vous passez beaucoup de temps avec les jeunes, dans les écoles. Vous étiez à Montréal il y a 2 jours de cela pour comme maîtresse de cérémonie. Vous avez des voyages un peu partout, à l'étranger. Et... Mais comment se fait-il que personne ici à Toronto ou dans le monde médiatique francophone entend parler le nom de Peggy Civil et votre entreprise de communication que vous avez créée?
Écoutez, est-ce que les échos sont arrivés à Toronto? Je peux le confirmer, oui, vous êtes là. Vous êtes là pour m'accompagner dans ce cheminement. Je pense que le travail qui est fait présentement dans Civil Communication est important. Non seulement mon cœur est tendre à la jeunesse, à cette jeunesse parce qu'on a une diversité culturelle qui a envie de participer, qui a envie de partager dans le domaine des communications. C'est pour ça que je me suis posé la question à me dire comment pourrais-je faire la différence? Hein, la différence au niveau du domaine de communication. Quand moi, j'ai voulu accéder à ce domaine, j'ai dû me battre, j'ai dû m'associer à des gens qui étaient en communication, j'ai dû aller chercher des références. Donc, je me suis dit, comment offrir à cette génération mon temps qui est hyper branché, qui est hyper intelligent, proactif et qui fait des choses positives, comment leur tendre la main pour qu'ils puissent accéder à ce monde de communication? Et d'où est venue l'idée d'être mentor? Hein? Un mentor, c'est une personne qui va te guider selon tes propres engouements dans ce domaine de communication. Et j'ai l'opportunité de travailler non seulement avec la communauté, la diversité culturelle, mais aussi avec la communauté caucasienne. Et en faisant ce cheminement de mentor, je me suis rendu compte par expérience que les questions n'étaient pas les mêmes, hein? Que l'attitude devant un défi n'était pas les mêmes. Donc, j'ai fait la réflexion à me demander qu'est-ce qui poussait une personne issue de la communauté de diversité culturelle à se poser telle et telle question et une personne provenant de la communauté caucasienne à se poser telle et telle question. Et les deux sont dans un cheminement pour accéder au monde de la communication et les questions ne sont pas les mêmes.
Je vais vous parler, pour terminer ce segment, de votre emploi dans des médias dans votre région. Mais avant tout, j'aimerais qu'on écoute un court extrait d'un autre animateur de ces radios poubelles. Peut-être vous avez déjà entendu parler du docteur Mayou. Alors, c'est quelqu'un qui est très, très, très controversé, qui a été mis au pas plusieurs fois par des plaintes. Le CRTC l'a banni à quelques reprises, mais il est toujours là. On écoute un extrait.
Le Collège des médecins n'a pas raison de radier Pierre Mayou. Pierre Mayou,
oui,
surnommé Doc Mayou, bienvenue à Tout le monde en parle.
Merci.
Doc Mayou, vous avez dit, je vous cite, « Les Noirs vivant en Amérique étaient le résultat d'un processus de sélection artificielle et par conséquent, ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel. »
Oui, c'est vrai.
Oh, oui. Vous êtes raciste?
Oui, c'est l'histoire de l'esclavage.
Êtes-vous raciste?
Oui. Puis un Noir qui m'a emmené des prunes encore il y a 10 jours, puis ils sont très bonnes, très, très bonnes. Voyons, c'est l'histoire de l'esclavage, là.
Mais de dire qu'ils ont un léger désavantage sur le plan intellectuel?
Surtout sur un certain âge. La race, je les appelle la race. C'est épouvantable, des fois, là. C'est parce qu'il y a eu des études aussi.
Quelles études?
Qui n'ont pas été publiées.
Quelles études?
Qui ont été remises par l'Université de Montréal.
Quelles études?
Des études sur...
Quelles études par qui? Quel médecin?
Ben là, je pourrais les amener. Je ne les sais pas par cœur, mais je les ai.
Et oui, vous voyez bien qu'il s'est embourbé. Il n'a pas jamais pu prouver les études. Et c'est ça qu'on est en train de dénoncer, madame, monsieur. On reçoit beaucoup, beaucoup de support, d'appui depuis que l'émission est en ondes parce que les gens trouvent qu'il faut renverser la vapeur. Est-ce que, justement, on doit laisser... ces hommes, ces animateurs dangereux, hein, c'est des vrais dangers publics, je pense, qui sont là pour polluer nos jeunes, pour polluer notre auditoire. surtout dans la communauté francophone. Et ces dérapages peuvent des fois apporter à la violence.
Je suis d'accord, c'est des micro-agressions qui sont, et ce mot me vient à la tête sournois. Lorsqu'on lance des affirmations sans même avoir, on l'a entendu, quelle étude. Mais les jeunes qui écoutent ces propos, ils restent imprégnés, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, ils restent imprégnés par des propos non justifiés, non justifiables. Et c'est ce que je remarque lorsque j'accueille un jeune mentoré. Il part déjà avec l'idée de ce que les gens disent autour de lui, les micro-agressions. Donc, un sourire qui n'est pas un sourire ou un grand soupir lorsqu'il fait une affirmation, donc pour le déstabiliser. Donc, on le voit dans notre jeunesse qui sont imprégnés. On le voit que ça fait du mal, ça fait du tort à notre jeunesse. Donc, je préfère m'accrocher à des gens comme Célina Chavanez, qui est secrétaire du développement international au Parlement, qui parle haut et fort et qui dit que notre communauté, on est présente, mais elle arrive à mettre le doigt sur des situations bien précises qui démontrent que maintenant, lorsqu'on parle de discrimination, lorsqu'on parle de racisme, c'est fait d'une façon sournoise. C'est une agression répétitive, avec des mots, des gestes, des soupirs, des regards, qu'on ne peut pas nécessairement mettre le doigt dessus et être clair. C'est plutôt d'une façon répétitive qu'on fait les choses, d'une façon sournoise.
Quelle est la chaîne que donc travaillez? Je pense qu'il y a une radio ou une télévision dont vous animez, vous êtes chroniqueuse, je pense.
Hein? Oui, donc je suis chroniqueuse à la télévision, Rogers TV du côté de Ottawa, et aussi je travaille dans une radio commerciale du côté d'Ottawa.
Alors, est-ce qu'on peut vous entendre sur le web, par exemple?
Oui, donc on peut, si vous allez sur Peggy Civil ou sur Civil Communication, vous allez trouver tous les renseignements, tous mes mouvements, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais, donc sur Peggy Civil ou Civil Communication.
Très bien. Alors, écoutez, vous avez d'autres projets très intéressants, passionnants, d'envergure internationale peut-être, que vous pourrez me lancer en deux mots?
Oui, donc je pars pour une délégation canadienne du côté de Haïti au Cap-Haïtien, donc très prochainement. Donc, choyée d'être la consultante des relations publiques et médias. Et puis, on part, on va à l'aventure, on va aller visiter d'autres pays pour voir qu'est-ce que la communication ailleurs.
Alors, j'espère que vous avez aimé votre première intervention à notre émission. Ça fait 30 ans qu'on est là. J'espère que vous serez là pendant quelques temps avec nous pour nous accompagner. Et si vous passez dans la région de Toronto, eh ben, les portes sont toujours grandes ouvertes.
Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Eric. Et j'ai bien aimé votre approche communicationnelle lorsque vous avez dit votre première intervention. Donc, ce sera surtout pas la dernière. Mais j'aimerais, si vous me permettez, me dire de finir sur ceci. Oui, on est présent. Vous êtes là. Aujourd'hui, vous m'avez tendu la main pour rentrer dans le paysage de Toronto. Et c'est grandement apprécié. Ensemble, nous faisons la différence.
Et vous connaissez un de mes proverbes africains célèbres. Le soleil qui brille n'ignore pas un village parce qu'il est petit. Et sur ce, je vous dis merci, bon fin de mois de l'histoire des Noirs et un bonjour chaleureux à tous vos amis de la région de Gatineau, d'Ottawa. Et j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer tout le monde, faire du beau travail ensemble. Merci mille fois encore. Au revoir.
Merci, au revoir. Song a mom, 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 song a m
CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. Mois de mars 2018, c'est le mois de la francophonie. C'est aussi le renouvellement de votre partenariat avec la radio. Soyez des nôtres, inscrivez-vous immédiatement à popourri@cut.fm. CUT 89,5 FM, le son de votre ville. Tout un monde à découvrir. CUT FM, Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5 Toronto.
Céline Pellarin.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté à l'unanimité pour réclamer un cessez-le-feu en Syrie sans délai. L'ambassadeur russe à l'ONU estime, lui, qu'il n'est pas possible de parvenir à un cessez-le-feu immédiat sans des accords concrets entre les factions en guerre. Ce texte a été âprement négocié pour obtenir un feu vert de la Russie sur ce projet de résolution, Moscou étant un allié de Damas. La France sera extrêmement vigilante concernant la mise en œuvre de la trêve humanitaire en Syrie. L'Élysée précise qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel s'entretiendront par téléphone ce dimanche avec Vladimir Poutine pour en discuter. Et dans la foulée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, doit se rendre à Moscou mardi. Pendant ce temps, les bombardements sur la route orientale continuent. Depuis 7 jours, 513 personnes au moins ont été tuées dans cette enclave rebelle assiégée depuis 2013. En République démocratique du Congo, la cathédrale de Kinshasa a été envahie par plusieurs centaines de militants du parti présidentiel. Ils ont pris position dans la cathédrale à la veille des marches pacifiques interdites des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila en RDC. Les précédentes marches du comité laïque de coordination qui avaient déjà été interdites les 31 décembre et 21 janvier ont été réprimées à balles réelles, faisant une quinzaine de morts d'après l'église, 2 selon les autorités congolaises. En Italie, la tension est palpable à une semaine des législatives du 4 mars. Plusieurs manifestations politiques ont dégénéré. Il y a eu cette démonstration de force de Matteo Salvini, d'un parti d'extrême droite. C'était à Milan. Et puis, des milliers de manifestants antifascistes étaient à Rome, parmi lesquels le chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, et le chef de file du centre-gauche pour ses élections législatives, à Matteo Renzi. Un rassemblement qui, lui, s'est déroulé dans le calme à Rome, mais d'autres groupes d'extrême droite ont tenu dans différentes villes de l'Italie des rassemblements qui ont provoqué des violences entre forces de l'ordre et contre-manifestants d'extrême gauche. En France, premier bain de foule au Salon de l'agriculture pour le président Emmanuel Macron. Ce samedi, une visite où il a été chahuté, accueilli par des sifflets et par des applaudissements. Cette visite intervient après des manifestations d'agriculteurs dans tout le pays contre le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Les éleveurs français craignent en effet l'importation en Europe de 70 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par par an, avec des droits de douane réduits. Et puis un mot de rugby dans le tournoi des Six Nations, il n'y a plus que l'Irlande pour décrocher le grand chelem. L'équipe d'Angleterre, double tenante du titre, ayant été dominée par l'Écosse 25-13. Vous écoutez RFI, les minuit 33 en temps universel.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Notre histoire s'écrit chaque jour. Et j'aimerais du fond du cœur remercier tous ceux et celles qui ont participé à nos émissions précédentes. Alain Foucault de RFI, Elikia Nkobolo de RFI, DJ Madaïs et Kaïs, DJ Felicio de Lomé, qui ont été aux platines de la plus grande discothèque d'Afrique dans Couleur Tropicale. C'était la première émission le 4 février dernier. Joe Farmer de RFI et son magazine L'épopée des musiques noires sur RFI. Aïcha Kone, coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs, ville de Gatineau. Dienaba Deme, secrétaire trésorière du mouvement ontarien des femmes noires francophones de l'Ontario. Et Mui Giawa Domitilde, consultante en création et gestion des petites et moyennes entreprises. Merci. Olga Lambert, co-directrice de People of Motherland, un monde de culture, qui était à notre émission la semaine dernière. Un grand merci à tout ce monde. Et oui, le mois de l'histoire des Noirs pousse non seulement à la réflexion quant à des sujets sérieux et actuels, mais éduque également sur le racisme, la tolérance et l'histoire. Et oui, lors d'une enquête, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi et trans en France a identifié 17 séquences clairement LGBT homophobes, pour ne pas dire homophobes, dont 6 visant des personnes trans. L'association des journalistes lesbiennes, gays, bi et trans a relevé en novembre plus de 50 séquences particulièrement discriminatoires ou problématiques envers les minorités LGBT, les femmes et les musulmans dans une étude dévoilée l'année dernière portant sur 5 talk shows. L'association a affirmé avoir visionné pendant un mois 100 heures de programme parmi les émissions Quotidien, au TMC, On n'est pas couché, sur France 2, Salut les terriens du dimanche, sur C8, L'heure des pros, sur CNews, et C'est politique, sur France 5. Et ils ont choisi ces programmes pour leur influence et leur popularité, a expliqué Clément Giuliano, coprésident de l'association, lors d'une conférence de presse. Et lors de cette enquête, l'association a identifié donc 17 séquences clairement homophobes, dont 6 visant des personnes trans, mais également 20 propos sexistes, 9 passages racistes et 8 cas de minimisation criante du harcèlement sexuel dans une actualité marquée par l'affaire Weinstein. Souvenez, même si nous sommes une association LGBT, dit le coordonnateur, on ne pouvait pas ne pas parler des propos racistes ou sexistes, car cela participe du même mécanisme, selon Alice Coffin, membre de l'association. Dans ces talk shows, on rit beaucoup des minorités, mais pas vraiment avec elles. On véhicule des clichés éculés et on minimise la parole des femmes, a résumé Clémence Alézard, coprésidente de l'association. Dans l'heure des pros, l'association pointe la faible représentation des femmes et relève notamment une séquence où l'animateur Pascal Praud remercie ses invités par un « Mesdames » après avoir salué notamment chaque homme présent sur son plateau. Yann Moi, vous savez, il est l'animateur, enfin chroniqueur sur le plateau de « On n'est pas couché ». Eh bien, lors d'une entrevue avec une femme sur le plateau, elle a dit « Pourquoi la fréquentation des milieux homosexuels si vous êtes une femme réellement à 100% ?» Cette question est sous-entendue, suggérant que les personnes normales n'auraient pas de raison de fréquenter les personnes déviantes, estime l'association. Autre cas de transphobie relevé par l'enquête, l'animateur Thierry Ardisson, dans « Salut les terriens », demandant à l'animatrice brésilienne Cristina Cordula s'il doit l'appeler « monsieur » ou « madame », car selon lui, c'est la question qu'on se pose tous au sujet des Brésiliennes. Un climat bienveillant règne chez ces politiques, note l'association, tandis que Quotidien, une autre émission, ne constitue pas un terrain hostile. Eh oui, on reproche donc à l'émission animée par Yann Barthez de rire des propos sexistes, homophobes et racistes sans jamais les nommer, ce qui entretient une ambiguïté. L'association a annoncé qu'elle allait solliciter les responsables des chaînes et des émissions et le Conseil supérieur de l'audiovisuel en France pour entamer une réflexion.
Yo les potos, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la machine est lancée, je reprends activement les vidéos en me détachant un peu des sujets YouTube. Mais on s'en éloigne pas trop pour le moment, on reste dans l'audiovisuel puisqu'on va parler des pires scandales liés à TPMP. Personnage surjoué, un cinquantenaire en chien, un ancêtre inutile, un Sylvain Durive de renom, une intello incomprise, un pet déclopé et j'en passe. TPMP sur les ondes depuis maintenant plus de 7 ans, cumulant les bad buzz et les polémiques le plus souvent très porté cul. On commence tout de suite avec ce qui fait l'actu sur la toile en ce moment, le canular homophobe de Cyril Hanouna, bien entendu. La colère a pris place sur les réseaux sociaux et a fait l'unanimité après un canular plutôt déplacé de Cyril lors de son prime intitulé TPMP Radio Baba. La production de TPMP a diffusé une annonce sur le site Viva Street. Bonjour, je me présente, Jean-José, super bien monté, je cherche une relation courte ou longue selon le feeling. Je suis bisexuel, je vous invite à déjeuner. Qui sait, peut-être qu'après je vous dégusterai. PS, j'aime quand on m'insulte. Vous l'aurez compris, il se fait passer pour un homosexuel en quête d'amour. Il a donc pu piéger en direct des gays séduits par l'annonce.
Allô, allô.
Et oui, notre histoire s'écrit chaque jour. Dernière émission dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs à CUT 89,5 FM Toronto. Et notre prochaine invitée est originaire de Tours, en France. Elle habite le nord de l'Ontario, Sudbury, depuis 2001. Et elle enseigne la science politique à l'université Laurentienne de Sudbury. Elle a publié un livre qui est un peu le fil conducteur de cette émission. Ah ouais, Aurélie Lacassagne, qu'on va entendre parler régulièrement cette émission. Elle a écrit « Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne », un essai sur une prise de parole à avoir, acheter, absolument, absolument, madame, absolument. Professeur, docteur Aurélie Lacassagne, bonjour et bienvenue à l'antenne.
Bonjour, merci de l'invitation.
Oui, il y a beaucoup de gens qui nous surveillent, qui nous regardent, qui écoutent, qui passent des commentaires. Mais en tout cas, ça attire beaucoup d'attention. Le sujet est un peu... Ça tombe bien parce qu'on veut montrer l'impact finalement des écrits, la littérature, les médias, sous toutes ces formes, que ça peut avoir dans la collective générale, c'est-à-dire l'imaginaire, n'est-ce pas ?
Bah effectivement, je pense que les médias, tout comme les formes artistiques, hein, que ce soit la littérature, le théâtre, le cinéma, ça joue, ces médiums-là, si vous voulez, jouent un rôle prépondérant dans la formation des identités sociales, hein, du collectif. Et je pense surtout au Canada, qui est quand même un très vaste pays, un pays aussi qui est extrêmement divers de par son histoire. Hein, le discours national canadien, le contenu de l'identité canadienne, finalement, elle est largement définie par les médias nationaux. Je pense plus particulièrement à Radio-Canada, qui joue un rôle fédérateur. En fait, c'est le seul média à être vraiment pan-canadien, hein, dans son contenu et dans sa diffusion. Si vous regardez les journaux écrits, par exemple, ils ont des éditions pour chaque région ou chaque grande métropole. Donc finalement, la façon dont nous tous, les Canadiens, on se perçoit les uns les autres, c'est grandement influencé par les représentations qu'il y a dans les médias.
Alors aujourd'hui, on a parlé un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu la première heure, de ces médias poubelles, qu'on appelle médias poubelles, surtout dans la région de Québec. Hein, il se passe des choses incroyables. Moi, j'aurais jamais pensé, ça fait bientôt 40 ans que je suis au Canada, jamais de ma vie, j'aurais pensé qu'un jour, on allait descendre si bas.
On allait descendre si bas. Oui, alors en même temps, je pense que effectivement, je veux pas... Je ne veux pas dire que ce genre de phénomène est pas important. Il faut l'étudier, il faut essayer d'en comprendre les causes, les racines. Sans compter que ça a été quand même jusqu'à ce que un des personnages néfastes soit élu. Donc il y a quand même Ceci dit, ça reste relativement minoritaire, si vous voulez, hein, dans l'audience que ça peut toucher. Ce qui pour moi est plus problématique, c'est quand des grands médias vont faire passer des stéréotypes, vont soit sous-représenter, parce qu'on a deux problèmes, on y reviendra, mais soit sous-représenter les minorités, soit faire des représentations qui sont erronées. Et puis, on insiste souvent effectivement sur le cas des radios poubelles dans la région de Québec, on oublie souvent, je sais pas si vous êtes amateur de hockey, puis si vous regardez la soirée de hockey sur Radio-Canada, on oublie souvent Don Cherry, qui quand même, tout le long de sa carrière, a sorti des propos contre les minorités, que ce soit des minorités dites visibles ou les francophones, ça, qui sont quand même pas très sympathiques. Et pourtant, Radio-Canada n'a jamais pris de mesure. Finalement, il est toujours là. C'est une des personnalités les plus appréciées dans le Canada anglais. Donc c'est pas simplement au Québec et à Québec. Je pense que c'est des problématiques qu'on retrouve ailleurs au Canada anglais. On en est peut-être moins conscient.
Est-ce que ça peut avoir des incidences? Vous qui travaillez avec, d'ailleurs, on aimerait bien parler, il y a beaucoup de gens qui sont très curieux, qui veulent savoir c'est quoi le profil des étudiants de l'université de Laurentienne. Alors, on parlera de ça, mais on parlera aussi peut-être si vous avez organisé des activités ce mois-ci. Mm-hmm. Mais ça peut avoir des incidences, justement, les jeunes, les gens qui sont un peu faibles, sensibles. On a parlé beaucoup de ce jeune qui est allé tuer plusieurs musulmans dans une mosquée, on s'en souvient, mm-hmm. l'année dernière. Et certains animateurs, le maire même de la ville, tout le monde ont monté au créneau pour dire qu'il faut aménager notre langage. Attention, on va trop loin.
Oui, 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 tout à fait, parce que les études elles montrent effectivement que les groupes minoritaires sont souvent exclus ou marginalisés. Ce qui est mis de l'avant dans les représentations médiatiques et culturelles, c'est bien souvent la culture dominante, ce qui renforce la pseudo-normalité. Et c'est quoi la pseudo-normalité ? Cette norme, c'est d'être blanc, homme, hétéro, classe moyenne, avec un accent français standard, bien entendu, alors qu'effectivement, les minorités sont soit sous-représentées, soit sont représentées de façon erronée. C'est sûr, depuis quelques années, les médias ont pris des couleurs, les choses changent un petit peu à la marge. En même temps, on est quand même très largement tombé dans le piège de la folklorisation. Finalement, à chaque minorité, on a associé des caractéristiques qui sont socialement construites par la majorité, et c'est comme ça qu'elles sont représentées. Alors bon, on a bien entendu la représentation, je dirais, traditionnelle de l'autochtone alcoolique. On a le jeune noir qui écoute du rap avec un hoodie puis qui a un drop-out de l'école. La femme musulmane avec ses nombreux enfants, en retrait de la vie sociale. Le gay qui est forcément artiste et exubérant. Les Québécois qui sont des énervés, qui boivent et qui fument. Bon, voilà, on a des caractéristiques comme ça, qui sont des caractéristiques sociales, un petit peu comme avec la construction sociale du genre, avec la féminité puis la masculinité. C'est la même chose avec les minorités. On a des caractéristiques sociales comme ça qui sont assignées au groupe. Et du coup, ces représentations, elles façonnent l'image que la majorité a des minorités. Mais Eric, je pense que ce qui est grave aussi, et ce qu'il faut souligner, c'est que ces représentations, elles influencent aussi, je crois, un peu la façon dont les minorités se perçoivent elles-mêmes.
Et j'aimerais qu'on... Vous savez, ils sont tellement silencieux. Je vois que... Regardez aux États-Unis, même en France. Ce qui est bien avec vous, vous avez une bonne connaissance de cette cause au Québec, au Canada. Mais aussi, vous êtes française. Vous savez très bien les émissions qui prône ce genre de vulgarité et sexisme, on les voit. Et pourquoi ces animateurs sont toujours là ? Est-ce que, finalement, c'est pour des raisons économiques que... Parce que ça marche, ces gens ont de très bonnes... la cote d'écoute est énorme pour certains.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, Eric, on dit souvent que on a les politiciens qu'on mérite. Je pense que quelque part, on a aussi les médias qu'on mérite. Autant, si vous voulez, ça marche dans les deux sens. Ça fait un peu l'œuf et la poule. Autant, oui, les médias influencent la société, mais je pense que la société, elle choisit et elle décide d'apprécier finalement des médias qui lui ressemblent. Et que les émissions dont vous avez parlé, les émissions françaises dont vous avez parlé en première heure, que je regarde pas, ces émissions, enfin que je ne regarde plus en tout cas, ces émissions-là, finalement, elles plaisent parce que les gens, la majorité des gens se retrouvent.
Alors, après l'attaque meurtrière en janvier 2017 dans une mosquée à Québec, il y a un professeur Dominique Payette, qui accuse certaines radios privées d'être en partie responsables. Elle était à TV5 Monde, qui collabore à cette émission, et on va entendre un extrait, son explication, et c'est assez dur ce qu'elle dit, et puis j'aimerais avoir votre réaction.
Oui.
Pour en parler en duplex avec nous depuis Québec, Dominique Payette. Bonsoir Dominique Payette, vous êtes professeur à l'Université Laval à Québec, professeur au département information et communication. Au passage, vous êtes aussi, je crois, maire ou mairesse, comme on dit au Québec, de la localité de Lac-de-Lage. Alors, selon vous, Dominique Payette, les médias, et en particulier certaines radios, porteraient une part de responsabilité dans cette tuerie dans la mosquée de Québec ?
Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose cette semaine, parce qu'il y a à Québec des radios qui ont des caractéristiques assez différentes de ce qu'on rencontre sur l'ensemble de notre territoire. En fait, ce sont des radios qui sont fortement influencées par le même modèle qu'on trouve aux États-Unis. Vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a maintenant près de 4000 stations de radio qu'on appelle des « old talk stations », c'est-à-dire des radios parlées, et qui ont comme ligne éditoriale, une ligne éditoriale de droite, parfois d'extrême droite, parfois raciste, parfois carrément xénophobe, et dans plusieurs cas antiféministe. Et on trouve en fait, finalement, ici à Québec, trois stations de radio qui ont cette même ligne éditoriale. Et donc, il y a, ce que j'ai dit il y a un an et demi en écrivant une recherche sur ce sujet-là, ce que je disais, c'est qu'il y a des groupes ici, dans la ville de Québec, qui ont peur. Et j'ai reçu une volée de bois vert à la suite de cette publication, parce qu'en fait, j'avais rencontré des personnes qui me disaient ce que les radios nous font vivre est assez insupportable. Parce que ce sont des radios qui fabriquent des ennemis. Et en démocratie, comme chez nous, comme chez vous, on peut avoir des adversaires, on peut avoir des opposants, mais on n'a pas d'ennemis. Alors que là, il y a vraiment une fabrication systématique d'ennemis.
Est-ce que ces radios, par exemple, diffusaient des propos islamophobes? Est-ce que ces propos auraient pu influencer le tueur de la mosquée de Québec?
Ce que les animateurs nous disent, évidemment, depuis quelques jours, c'est « j'ai jamais dit à personne de prendre une arme et de tirer dans une mosquée ». Alors, évidemment, le lien sera toujours très difficile à établir et presque impossible à établir entre ce qui se dit à la radio, les propos qui sont tenus dans cette radio et les actes qui sont commis. Mais il y a des propos qui sont carrément anti-immigration, carrément islamophobes. Il y a un des animateurs, par exemple, qui, en septembre dernier, disait, je l'ai déjà dit, je vais le dire encore, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Quelqu'un disait, les musulmans ont en horreur les valeurs occidentales, etc. Donc, il y a cet amalgame est assez constant et assez systématique.
Alors, professeur Dominique Payette, qui s'exprimait, madame, monsieur, sur TV5 l'année dernière. Réaction, professeur Lacassagne?
Ben écoutez, je pense que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec les propos de ma collègue. Faut pas oublier que la radio, c'est un très puissant outil de propagande. Et effectivement, ça véhicule ce genre de discours raciste. Bien entendu, qu'aucun de ces animateurs-là a dit prenez des armes et puis allez-y. Mais c'est constamment des représentations, une fois de plus, qui sont stigmatisantes par rapport aux minorités. On le retrouve aussi, vous savez, on parle des radios poubelles à Québec, mais vous lisez, je le fais de temps en temps pour de façon sociologique, lisez le Journal de Montréal. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut lire là-dedans. Il y a cette idée aussi un petit peu terrible en ce moment que tout est bon à dire, hein, cette espèce de relativisme, que tout le monde a le droit d'avoir une opinion et que toutes les opinions se valent. Et certainement certains contributeurs au Journal de Montréal pensent ça. Il y a une désacralisation aussi de la parole. Des experts, quand même. Et tout ça, c'est problématique. Ça fait, on a peur. Elle parle beaucoup de la peur, effectivement. Je pense qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si vous regardez, pour reprendre le cas de la France, si vous regardez dans les grandes villes françaises, le Front National, par exemple, fait des scores relativement bas. Le Front National, là où il fait ses scores assez élevés, c'est dans les petites villes autour, si vous voulez, des grandes villes. À Paris, par exemple, le Front National fait des scores extrêmement bas. Alors que vous avez des petits villages, moi je me rappelle très bien, je vous donne un exemple des élections de 2002, Dame-Marie-les-Bois, un petit village pas très loin de chez moi, 600 habitants, où bien entendu les gens n'ont jamais honnêtement dans leur vie vu un noir ou un arabe, soyons très clairs là-dessus, le Front National au premier tour fait 40%. Voilà, pourquoi? Parce que ce que les gens voient de ces minorités, si vous voulez les appeler comme ça, c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils voient en regardant le journal de TF1. Or, le journal de TF1 nous parlera toujours quand... bon. Quelqu'un à consonance avec un nom à consonance arabe se fait arrêter ou africaine se fait arrêter. Voilà. Bon, c'est le groupe de jeunes noirs assis dans une banlieue, bon, qui est un petit peu, voilà, où c'est Mohamed qui s'est fait arrêter pour telle et telle chose, alors que quand c'est Jean-Marie qui s'est arrêté, ben voilà, on n'en parle pas à la télévision. Donc c'est la seule chose finalement que ces gens-là connaissent. Dans les grandes villes, on vit ensemble beaucoup plus. Donc je pense que les perceptions sont complètement différentes.
On aimerait tellement, tellement parler avec vous pendant plusieurs heures, parce que c'est tellement riche ce que vous nous partagez. Parlez-nous un petit peu du profil de vos étudiants, des professeurs, de vos collègues à l'université Laurentienne. Il faut dire que c'est dans le nord de l'Ontario, il fait un peu plus froid, n'est-ce pas, pour les gens qui nous écoutent sur Internet, mais c'est une université où ça bouge, je vois qu'il se passe des choses très intéressantes.
Alors,
là-bas.
Ce qui est intéressant, alors, c'est que la composition du corps professoral, elle, est historiquement, enfin, du côté du corps professoral francophone, elle a toujours été historiquement diversifiée. On est une écrasante majorité d'immigrants. Et je pense que si vous vouliez parler de minorité visible, je pense qu'en fait ils sont une majorité visible dans le corps professoral francophone, ou en tout cas pas loin. Il y a une très très grande diversité, tout simplement parce que les opportunités, on a du mal à attirer finalement du monde à Sudbury, parce que bon, je pense que beaucoup de Canadiens, notamment de Québécois, ont une vision de Sudbury comme étant cette terrible ville minière perdue au milieu de nulle part, lunaire, et donc souvent ils n'en voient pas. Enfin, quand il y a des postes qui s'ouvrent, ils postulent tout simplement pas. Alors que, vous le savez, comme migrants, on est beaucoup plus à même de vouloir bouger, parce que pour nous, l'intégration économique, elle est importante. Donc ça, c'est très important, parce que ça a eu justement dans les représentations, parce que ça veut dire que les premiers immigrants, les premières personnes de couleur qui sont arrivées à Sudbury ont été des professeurs d'université ou des médecins. Donc ça change complètement la perception que les gens ont des personnes de couleur.
Et les étudiants.
Alors par contre, là, les étudiants, c'est en train de changer très très rapidement. Ouais. Moi, dans mes classes, c'est partagé, c'est vraiment du 50-50. Entre étudiants internationaux, principalement venus de l'Afrique francophone, et des étudiants franco-ontariens établis, c'est 50-50, ce qui donne vraiment des classes hyper dynamiques, avec des échanges super intéressants. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à enseigner dans ce cadre-là.
Alors, je rappelle que votre livre, cet essai engagé, cherche à cerner, tout en renouvelant les termes du débat, les phénomènes qui contribuent à la construction de l'identité franco-ontarienne, que j'aime beaucoup, hein, ces perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne. Et j'aimerais lire un extrait à la page 104 que j'aime bien, l'histoire, la nôtre, qui nous nourrit d'espoir et de rêve, et celle des porteurs d'eau et des petites gens, plutôt que celle des grands de ce monde.
Exactement.
Alors, écoutez, je vous remercie infiniment, et on va vous retrouver dans le cadre du mois de la francophonie, si vous avez le temps, parce que on va encore voyager avec des correspondants, des intervenants à travers le monde. Mon idée pour le français, vous savez, ce thème lancé par le gouvernement français cette année. Alors,
oui,
sera intéressant aussi.
Beaucoup de choses à dire.
Justement. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres collègues ou encore des jeunes, des étudiants, vos étudiants qui aimeraient passer leur coup de cœur ou nous partager leur idée, ce que ça veut dire pour eux, la francophonie, vous nous envoyez leurs coordonnées, ils peuvent nous contacter. Cela nous fera plaisir de les appeler tout au long du mois de mars. Et pour terminer, pour vous remercier, j'ai un petit proverbe africain pour vous qui dit « Le bruit du fleuve n'empêche pas le poisson de dormir. » C'est très bien. Ou encore « Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps. » Ça, c'est le proverbe africain. Hein? Parce que pour eux, ils n'ont pas de montre, mais ils ont le temps.
La relation au temps est différente.
Très bien. Je vous remercie infiniment.
Je vous remercie énormément pour votre invitation.
De la part de toute l'équipe. Voilà, professeur Aurélie Lacassagne, madame, monsieur, qui a écrit « Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne », un livre à voir absolument, édition Prise de parole, à qui nous disons merci pour cette découverte. Bonne journée et bon mois de l'histoire des Noirs. Au revoir.
Merci.
Yeah, yeah. Fatoumata.
Alors là, vous entendez, madame, monsieur, un extrait d'une chanson de l'artiste Kinvi. Mais ça a été repris, je pense, par quelqu'un d'autre, Loris Giulani. Voilà, ça s'appelle Blackface. Qu'est-ce que c'est? Peut-être méconnu ici ou même en France, mais très 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 connu aux États-Unis. C'est quelqu'un qui apparaît, le visage noirci, coiffé d'une perruque afro, déguisé en Fatoumata, du titre de la chanson de l'artiste Kinvi. Eh oui, alors il se produisait en direct sur l'émission Sekoé à Paris, qui dénonce, plusieurs personnes ont dénoncé la dimension sexiste et bien sûr raciste de cette émission de radio Sekoé, une des émissions à tendance raciste et sexiste à éviter absolument.
CIUT 89.5 Toronto.
Ça tourne pour moi quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. RFI. RFI. RFI.
RFI, la radio du monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Cherche sans a priori, montre pourtant qu'à l'instar des autres races, les Noirs ont participé à l'aventure de l'esprit humain. Ils sont des savants, des inventeurs, mais nulle part, il ne figure dans le livre mondial de l'invention recensant ceux qui ont permis les progrès de l'humanité. L'inventivité des Noirs aux Amériques, par exemple, ne s'est jamais démentie à tel point qu'en 1858, un avocat général, Jeremiah Black, fera passer une loi contre le dépôt de brevets d'invention par les esclaves, vu qu'un brevet américain était un contrat entre le gouvernement des États-Unis et l'inventeur. Cela donne donc à penser qu'un certain nombre d'inventions faites par des Africains américains, communément appelés Afro-Américains, étaient souvent reconnues à leur maître esclavagiste. De plus, des instructions secrètes avaient été données en haut lieu pour qu'aucune banque ne finance un inventeur noir. Seules les sociétés privées blanches et les citoyens blancs avaient ainsi accès à ces crédits qui leur permettaient de racheter les brevets des Noirs et de se lancer dans leurs exploitations commerciales. Aux tables d'excellence, on a toujours tendance à ranger les Noirs dans la catégorie des meilleurs sportifs, ce qui n'est pas mauvais en soi. On est fier du roi Pelé, de Mohamed Ali et de Michael Jordan, entre autres. Cependant, les Noirs excellent également en sciences et en technologie. Ils ont fait beaucoup d'inventions demeurées inconnues au grand public. À l'instar de Granville T. Woods, l'inventeur de l'appareil de transmission de messages par voie électrique, le docteur Benjamin Carson, qui réalise une première mondiale en réussissant une opération permettant de séparer deux jumeaux siamois allemands, ou encore Otis Boykin, l'inventeur du fameux pacemaker, le régulateur pour stimulateur cardiaque. La rapacité, la cupidité du système capitaliste jointe au désir effréné de certaines nations d'assurer la suprématie de la race blanche font jeter aux calentes les noms des inventeurs noirs, même lorsqu'on leur reconnaît un certain droit d'invention. Le fait d'avoir changé leur patronyme du fait de l'esclavage contribue également à donner l'impression aux jeunes noirs que leurs ancêtres n'ont rien inventé. Et pourtant, comme le disait Martin Luther King Jr., quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié de toutes les choses et de tous les appareils dont vous vous êtes servi avant de quitter votre domicile a été inventée par des noirs.
Alerte, notre histoire s'écrit chaque jour. Le mois de l'histoire des Noirs pousse non seulement à la réflexion quant à des sujets sérieux et actuels, mais éduque également sur le racisme, la tolérance et l'histoire. Une émission réalisée en partenariat avec l'Express de Toronto, Abilo Media à Ottawa, Radio France Internationale, France 24, Radio France, Civil Communication, Édition Prise de Parole, l'Association des journalistes LGBT France. Et oui, la coalition Sortons les radios poubelles de Québec dénonce le danger que représente la radio poubelle pour la salubrité de l'espace public. La coalition met en garde contre les dangers de ces radios, surtout 93,3 et Choix, qui répandent quotidiennement une huile de vidange haineuse, sexiste, homophobe, raciste, anti-syndicale, anti-pauvre sur les ondes publiques. Ce cocktail toxique a une incidence sur la qualité de l'information et doit être combattu avec les meilleurs désinfectants, c'est-à-dire l'éducation populaire, la sensibilisation et la mobilisation. Vous pouvez écrire, envoyer vos commentaires sur le blog de la coalition Sortons les radios poubelles en écrivant à sortonslesradiopoubelles@gmail.com. Et maintenant, je vais vous faire entendre un extrait d'une chanson sur Radio X au Québec, une des radios poubelles, Accommodement raisonnable, chanson tirée du nouvel album de Mise en demeure, Choix 98,1 Radio X et la station francophone de Québec. Ses opinions tranchées, pertinentes sur des sujets chauds de l'actualité ainsi que sa forte personnalité font de Radio X l'incontournable de la capitale.
Boulou et Bandin Mberry est le directeur de Terre Promise, un projet qui vise à mettre de l'avant l'histoire oubliée des Noirs canadiens. Il a décidé de présenter à Ruby trois femmes noires fascinantes, mais absentes de la mémoire collective. Rencontre avec leur histoire.
Si je vous demande, qu'est-ce que vous savez de l'histoire des Noirs au Canada et en Ontario en particulier? On va dire le chemin de fer clandestin, mais ce n'est pas que cela.
Vous êtes le directeur du projet Terre Promise. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste?
Bien, le projet Terre Promise, c'est un projet historique sur l'histoire des Noirs au Canada, comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils étaient et tout ça. Mais pour moi, c'est un projet d'abord de hasard. C'est pour ça qu'on l'a appelé Terre Promise, parce que c'est sur la migration, c'est-à-dire des gens qui voulaient devenir Canadiens et qui ont essayé de se faire une identité canadienne. C'est surtout cela, le projet Terre Promise.
Vous avez vous-même fait beaucoup d'apprentissage lors de vos recherches, en particulier l'impact des femmes dans l'histoire oubliée des Noirs au Canada. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, les femmes, et surtout une femme en particulier, parce que je suis professeur de communication, n'est-ce pas? Et une femme journaliste. Au 19e siècle au Canada, j'ai découvert le nom de Miriam Chad Carey, qui est une femme fascinante. Si vous commencez à lire sur elle, elle était extraordinaire. Première femme canadienne noire, propriétaire de Provincial Freeman Press, qui a aussi milité pour la libération des Noirs aux États-Unis et surtout pour l'intellectualisation des Noirs. Oui.
Elle était vraiment votre point de départ pour le projet.
Absolument. Et l'inspiration, d'ailleurs. Hein, elle était une inspiration particulière parce que, surtout, Marianne, en termes des médias, avait compris que c'est à travers les médias qu'on sensibilisait, hein, à travers la presse. Donc, elle savait écrire et elle savait que les Noirs lisaient ce qu'elle écrivait. Donc, ça devient intéressant.
Elle avait compris.
Elle avait compris, c'est ça.
Et oui, la loi sur la radiodiffusion adoptée en 1991 prévoit l'obligation, enfin pour Radio-Canada et les diffuseurs privés, de refléter le caractère multiculturel du pays. On nous dit que par contre les journaux n'ont pas l'obligation de refléter la diversité. Intéressant. Lorsque le CRTC accorde des licences de diffusion, il exige des entreprises qu'elles lui fournissent des plans d'action pour améliorer la représentativité des minorités visibles, mais les résultats tardent à venir. Luc Simard, directeur de la diversité à Radio-Canada, reconnaît qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire. On est assez loin de notre objectif, dit-il. Pour l'ensemble de la boîte, c'est mieux en information où les minorités visibles représentent 5,9% de l'ensemble du personnel. Et l'objectif, c'est d'atteindre 7,9%, ce qui correspond à la disponibilité des minorités dans la main-d'œuvre pour ce type d'emploi. Impossible cependant d'avoir des chiffres précis pour les emplois de journalistes. En onde, les Maxime Bertrand, Azeb Wolf-Gourkis, Akli Atta Abdallah, Annick Béraud et Valérie Michaela Bain se comptent parmi les doigts d'une main ou de deux mains. Luc Simard reconnaît le problème. Il y a une volonté de représenter la diversité, mais ça ne bouge pas vite. Ce qui bloque, ce sont les portes d'entrée à Radio-Canada. Ceux qui entrent ont des contacts, des réseaux. Quand on est né au Québec, on est francophone de souche. On connaît souvent quelqu'un qui peut parler à telle personne. Un des défis, c'est de formaliser les portes d'entrée et de mettre fin aux entrées par contact. Et pour cela, il faut miser sur les stages universitaires, des stages non payés, accessibles à 15 étudiants en journalisme par session, et le fait d'avoir formalisé cette politique fait en sorte qu'on a davantage de diversité dans les candidatures. Et 47% des stagiaires finissent par travailler à Radio-Canada. Donc, ça bouge. Moi, je me souviens quand je travaillais sur une chronique, une émission hebdomadaire à Radio-Canada, c'était une première. Les gens n'avaient jamais vu ou entendu un accent différent. Et je remercie beaucoup ceux et celles, et surtout mes professeurs de l'école Promédia, qui m'ont donné cette chance de pouvoir travailler dans des radios privées, mais aussi à Radio-Canada. Et après à TFO, à l'époque c'était TVO. Alors, et un peu aussi à Radio-Canada à l'époque ici, qui était encore à la rue Carlton, avec Monica Merina, on animait une chronique. Mais c'était toujours on vous encadre dans des émissions de diversité, multiculturelle. Je trouve ça un peu folklorique, mais je pense qu'on peut aussi parler d'autre chose, n'est-ce pas? Alors, il y a des petits pas, il faut bien admettre, mais c'est très, 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 très lent. J'espère que cette émission vous aide à saisir le problème. Et cette fois-ci, nous allons pour de vrai à cette autre radio poubelle que je vous ai parlé il y a quelque temps. Retourne chez vous, à Québec, dans ton pays, qui crispe en l'air. Les journalistes sont des vedettes, ils se masturbent sur la dette. Mélissa François, d'origine haïtienne, est journaliste à Radio-Canada à Sherbrooke. Elle a fait ses études à Concordia parce que je me retrouvais davantage dans la culture anglophone où il y a plus de minorités, dit-elle. Ses parents ne souhaitaient pas qu'elle aille dans un métier où il n'y a personne comme elle. Son parcours pour devenir journaliste est celui d'une battante. Et on a rencontré pas mal, depuis qu'on prépare cette émission, on a eu des courriels, des témoignages. Il y a des gens qui veulent garder l'anonymat, mais on sent que c'est un sujet qu'il faut débattre, qu'il faut continuer à en parler à la radio. Et si cela vous intéresse, soyez des nôtres, peut-être lors du mois de la francophonie. Cette fois-ci, je vais rapidement, si on a le temps, on va passer le micro à un monsieur que vous connaissez très bien, monsieur Bernard Pivot, qui ne le connaît pas, et il a eu un entretien avec Cheikh Modibo Diarra, qui est un ingénieur malien à la NASA aux États-Unis, un savant. Lui, il préfère vivre aux États-Unis. Il n'aime pas la France. Il vous dit pourquoi.
Alors j'en viens à une question qui pour moi est essentielle. Vous avez donc finalement choisi New York plutôt que Paris, les États-Unis plutôt que la France, alors que votre langue c'était le français et non pas l'anglais. Qu'est-ce que vous avez trouvé aux États-Unis? Qu'est-ce que vous avez trouvé à cette université? Qu'est-ce que vous avez trouvé ensuite dans les endroits où vous allez travailler, notamment à la NASA? Ce que vous ne pouviez pas trouver en France?
L'acceptation.
C'est l'acceptation tout. De quoi?
De ma personne.
On ne vous acceptait pas à Paris?
C'est-à-dire qu'on ne me rejetait pas, c'est pas qu'on me rejetait ou qu'on ne m'accepte pas, c'est-à-dire que les gens sont indifférents.
Vous n'existiez pas?
On n'existe pas. On vit dans un coin, le temps passe, on fait ce qu'on a à faire, on a des amis avec lesquels on s'amuse. Mais quand il s'agit de long terme, on n'existe pas.
Oui. Alors, vous n'existez pas parce que, peut-être, parce que vous étiez noir, parce que vous étiez un Africain, parce que les Africains sont encore plus, si j'ose dire, transparents que les autres?
Ils sont plus faciles à repérer, mais j'ai vu aussi, j'avais des amis ici qui venaient de Pologne, qui étaient à l'école avec moi, ils étaient de la même façon. C'est des gens qui sont censés venir étudier, et dès qu'ils finissent, repartir chez eux. Tandis qu'aux États-Unis, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand on arrive, automatiquement, les gens vous regardent et disent « Ah, ben, voilà, vous pouvez contribuer à cela, on vous implique dans des projets tout de suite. » Vous avez l'impression d'être accepté.
Entouré.
Entouré comme quelqu'un qui peut ajouter de la plus-value à tout ce qui se fait.
Alors qu'ici, que ce soit les professeurs, que ce soit les universitaires, que ce soit les chefs d'entreprise...
Et surtout les professeurs. Je me souviens, quand nous étions en classe préparatoire, et j'ai mon ami avec lequel j'ai fait la prépa qui peut vous garantir ça. Vous savez, nous, on avait une bourse qui faisait 450 francs français par mois. Donc il fallait qu'on vive. Et dans les classes prépa, tous les 2 ou 3 mois, il fallait qu'on achète un bouquin, un livre nouveau. Et ces livres coûtaient cher. Et nous allions à notre ambassade faire des demandes spatiales pour avoir de l'argent, etc. Mais nous avions des professeurs qui nous traitaient carrément de fumistes, en disant pourquoi vous êtes là en train de préparer un concours pour entrer dans une grande école, vous allez prendre la place d'un Français, vous ne voulez même pas acheter des livres, alors que ils auraient pu simplement se rendre compte que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ces livres. C'est pas plus compliqué.
Et oui, nous sommes arrivés presque à la fin de ce tour du monde. Aujourd'hui, c'était une émission un peu palpitante pour clôturer le mois de l'histoire des Noirs. Mais j'aimerais dire grand merci à Action Critique Média Acrimed, née du mouvement social de 1995 dans la foulée de l'appel à la solidarité avec les grévistes, une association qui essaie de remplir les fonctions d'un observatoire des médias constitué depuis sa création en 1996 comme une association carrefour qui réunit des chercheurs universitaires, des acteurs du mouvement social et des usagers des médias en France. Racisme, médias, racisme dans les médias du professeur Julien Salingue. Il est aussi journaliste et cet ouvrage nous a aidé à monter cette émission aujourd'hui. C'était un article paru le 17 mai 2016. Je remercie beaucoup DJ Devera d'avoir été là, Sloan Ballant, professeur Aurélie Lacassagne, Peggy Civil, un grand merci, Radio France Internationale, le journal Express de Toronto. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec le professeur Alexis Tuap, qui est directeur du département de français à l'Université de Toronto dans le cadre du lancement du mois de la francophonie. Allez, on vous dit merci d'avoir été là, merci de votre fidélité et on se revoit en pleine forme dimanche prochain. Bon dimanche et bonne semaine à tous.
about like Matthew Ballard.